Actes chapitre 8, que nous avons commencé d'étudier la fois dernière, Actes chapitre 8, versets 26 à 39, que je lis pour nous tous. Il est écrit, verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur... » Merci. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide. » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà notre texte dans lequel nous avons commencé une étude la fois dernière, vendredi dernier. Et le thème que nous avons donné à cette étude, c'est les éléments indispensables au salut des pécheurs, comme le Saint-Esprit le relève ici. Et nous avons vu que le salut des pécheurs vient de Dieu et de Dieu seul, par son Fils Jésus-Christ, qui s'est donné sur la croix pour payer la dette du péché de son peuple et de le réconcilier avec Dieu. Le salut est planifié par Dieu lui-même et rien ne vient de l'initiative des hommes, absolument rien. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Et le premier élément que nous avons relevé, le premier élément indispensable pour le salut des hommes que nous avons relevé, c'est un prédicateur de l'Évangile envoyé par Dieu lui-même. Voyez, c'est ce que nous voyons dans ce texte où l'ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, Lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Pour le salut des pécheurs, il faut des prédicateurs, mais pas n'importe quel prédicateur, des prédicateurs envoyés par Dieu lui-même, des prédicateurs instruits par Dieu lui-même, enseignés par Dieu lui-même, qui prêchent fidèlement la parole de Dieu pour ramener les élus de Dieu à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Un deuxième élément que nous avons vu, c'est un deuxième élément indispensable au salut des pécheurs que nous avons vu, c'est les pécheurs préparés par Dieu lui-même. Voyez mes amis, si Dieu lui-même ne dispose pas les cœurs des hommes pécheurs morts dans leur péché à recevoir Christ, d'abord à recevoir le prédicateur de l'Évangile et à les écouter et à croire en ce qu'ils disent, personne ne croira en Dieu. Et nous l'avons vu à travers beaucoup de textes bibliques que nous avons lus. Combien j'aborde les gens et tout poliment et humblement, je leur demande s'ils ont une minute pour m'accorder, pour qu'on puisse parler du salut de l'âme. Mais on me dit, monsieur, s'il te plaît. Et vous voyez, si Dieu lui-même n'ouvre pas le cœur, ne dispose pas le cœur, personne ne nous écoutera. Mais notre confiance réside dans le fait que Dieu a préparé les cœurs depuis avant la fondation du monde, les cœurs qui écouteront ses serviteurs et qui seront sauvés. Des hommes et des femmes que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde. Voyez, l'évangile que je prêche, ce n'est pas pour vous supplier de croire en Jésus-Christ. Je prêche un évangile qui est destiné à condamner les ennemis de Christ et à chercher les élus de Dieu. L'évangile lui-même cherche les élus parce que Dieu lui-même a planifié ça ainsi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à ceux-là qui ne croyaient pas en lui, il dit, vous m'avez vu, vous ne croyez pas, mais tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai personne dehors. C'est ça la vérité de ce ministère de l'Évangile. Je ne vous prie pas de croire en ce que je dis, parce que cet Évangile que je prêche, il est le parfum de Christ, un parfum qui est pour certains un parfum de mauvaise odeur, donnant la mort, et un parfum pour d'autres, un parfum de bonne odeur, donnant la vie. Oui, ceux que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde entendront la voix du berger et ils le suivront. Et donc, c'est ça, les cœurs préparés par Dieu lui-même. Ainsi, nous le voyons dans notre texte, comment Dieu a préparé le cœur de cet Éthiopien afin qu'il reçoive Philippe et qu'il l'écoute et qu'il soit sauvé. Parce que nous voyons que cet homme a cru et il a été baptisé au nom de Jésus. Mais la première des choses que nous voyons, que je voudrais qu'on voit ce matin, pardon, ce soir, s'il vous plaît, c'est cet eunuque, comme ici dans notre texte, le Saint-Esprit le décrit. Qui est donc cet eunuque éthiopien? D'abord, lorsqu'on parle des eunuques ou bien d'un eunuque, c'était dans l'Ancien Temps, particulièrement dans l'Ancien Testament, et même dans les anciens royaumes, les eunuques étaient des hommes qui avaient été castrés et qui servaient dans les cours des rois ou bien dans les cours des nobles. Donc le fait que ces hommes étaient castrés, ils étaient physiquement très forts et de l'autre côté, ils étaient inoffensifs. Ils ne pouvaient rien faire aux femmes des rois, ni aux filles des rois, ni à tout ce qui était la gente féminine. Et donc, les rois les utilisaient, les nobles les utilisaient, et c'était donc des hommes de cette catégorie-là. Et celui de notre texte, il est écrit, il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de ses trésors. Ça veut dire que c'est lui qui gérait les trésors de la reine d'Éthiopie. Il était son ministre et il gérait les trésors de la reine d'Éthiopie. Donc nous voyons ici que c'était un homme beaucoup instruit, un bon gérant qui était au service de la reine d'Éthiopie. C'était un homme haut placé, un homme de pouvoir, il était un religieux et il était venu à Jérusalem pour adorer. C'est ce que nous voyons dans le verset 27 qui dit « Il se leva et partit, et voici un eunuque, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. » Mais qu'est-ce que nous voyons dans cet homme? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne dans cet homme? Cet homme était béni matériellement, mais il était perdu spirituellement. C'est ce que nous voyons ici. Il avait de l'argent, d'abord en tant que ministre, et deuxième en tant que surintendant de tous les trésors de la reine, dont c'est quelqu'un qui touchait bien et qui était bien payé. Il avait beaucoup d'argent. Mais malheureusement, son argent qu'il avait ne pouvait le sauver. Son argent qu'il avait ne pouvait payer le prix de son âme. Son or, son argent ne pouvait rien. Comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre et chapitre 1 et le verset 18 à 19, écrivant à ses frères juifs, il dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui, aucun pécheur ne peut être racheté. Aucun pécheur ne peut donner pour prix pour son péché, pour le rachat de son âme, de l'or, de l'argent. Non. Mais, verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. » Voilà donc, cet homme avait beaucoup d'argent, et comme beaucoup d'hommes ici à Bafoussam, ou bien ici au Cameroun, chez nous, ils ont beaucoup d'argent. Mais malheureusement, leur argent ne peut racheter leur âme. Leur argent ne peut donner le prix du rachat de leurs âmes. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seul qui a été prédestiné pour sauver les pécheurs. Voyez, mes amis, c'est pourquoi Dieu a envoyé Philippe pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à cet homme, à cet Éthiopien, pour le sauver. Pour le sauver, il fallait que cet homme connaisse qui est Christ et ce que Christ a fait depuis avant la fondation du monde. Ce que Christ a fait par sa vie parfaite et par son sacrifice qu'il a offert sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu et payer la dette du péché de son peuple. Afin qu'en croyant en ce Christ et en son œuvre accomplie, cet homme soit sauvé. Parce que Dieu l'avait préparé d'avance pour le salut. Deuxièmement, ce que nous voyons, c'est que cet homme était un religieux et un homme zélé, parce que c'est chaque année qu'il venait à Jérusalem pour adorer. Mais il venait adorer quoi? Il venait adorer, il venait à Jérusalem adorer selon la loi. Selon la loi. Et malgré cela, malgré le zèle de cet homme derrière la loi, dans l'observation de la loi, cet homme était perdu. Car la Bible est claire que nul ne sera justifié par la loi. Lisons-le dans Galates, chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre la loi et ne le met pas en pratique. Oh mes amis, cela s'adresse à vous, vous qui m'écoutez, et peut-être que beaucoup d'entre vous sont dans les églises où on leur dit chaque fois, si vous ne mettez pas les lois de Dieu en pratique, vous ne serez pas sauvés. Mais cette parole dont le Saint-Esprit a inspiré dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce que pour être sauvé par la loi, il faut qu'il la mette en pratique, il faut qu'il l'observe sans en transgresser une seule, il faut qu'il la mette en pratique sans avoir transgressé une seule. Verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Voyez, c'est par la foi en Jésus-Christ, la foi en la personne de Christ et ce que Christ a accompli pour le salut des pécheurs qui ne pouvaient absolument rien accomplir et qui ne peuvent absolument rien accomplir pour satisfaire Dieu, pour satisfaire la justice de Dieu. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voyez donc, mes amis, qu'il est totalement et pratiquement impossible pour vous et moi d'être sauvés par la loi, parce que nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Mais voici là où nous avons notre espoir. Voici là où, n'est-ce pas, nous devons rendre grâce à Dieu. Le verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur le bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? En portant notre péché sur lui et en souffrant sur la croix pour satisfaire à la justice de la loi par son obéissance, d'abord par son obéissance pendant sa vie, il a vécu une vie parfaite, obéissant à la loi de Dieu et donnant à Dieu une obéissance parfaite à cette loi. Et par son sacrifice, il a satisfait à la justice de Dieu qui exige la mort des pécheurs. Voyez comment Christ est devenu malédiction, parce que c'est lui qui est mort à notre place pour notre péché, selon que la loi nous condamnait, afin que par cette mort, nous soyons rachetés. Nous soyons réconciliés avec Dieu. Voilà donc que cet homme, il était religieux, il était bien zélé, mais il était perdu. Et Dieu qui l'avait mis Dieu qui l'avait mis à part depuis avant la fondation du monde a donc envoyé Philippe afin que Philippe lui annonce l'évangile à travers ce passage de Ésaïe et que cet homme arrive à la connaissance de Christ, à la connaissance de l'œuvre parfaite et efficace que Christ a accomplie à la place de ceux dont il est venu sauver et qu'il soit racheté. qu'il soit justifié, réconcilié avec Dieu, qu'il obtienne le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Voyez, cet homme connaissait la loi qui condamne, mais il ne connaissait pas la grâce de Dieu qui donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais il était un élu de Dieu, aimé de Dieu, aimé dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et Dieu a envoyé Philippe vers lui afin qu'il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qu'il reçoive la vie éternelle. Une autre chose que nous voyons, et là, c'est pour nous les Africains, cet homme était un Éthiopien, donc il était africain. Vous connaissez, vous tous, l'Éthiopie en Afrique. Vous avez entendu parler. Et ce que je voudrais relever ici, dans le fait que cet homme était éthiopien, est que tous les antéchrists africains endoctrinent les gens en disant que c'est la colonisation qui a introduit la Bible en Afrique pour aveugler les Africains et s'accaparer de leurs richesses. Mais ce livre, mais ce texte, Acte 8, nous prouve que c'est faux, que c'est très faux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un antéchrist? C'est des ennemis de Christ. C'est des hommes qui rejettent Christ, c'est des hommes qui s'opposent à Christ. C'est des hommes qui haïssent Christ. Et c'est pourquoi ils disent que c'est la colonisation qui a introduit la Bible en Afrique pour aveugler les Africains et s'accaparer des richesses de l'Afrique. Mais ce que nous voyons ici, c'est que cet Éthiopien est un véritable témoignage de Dieu que beaucoup d'Africains connaissaient les Écritures, beaucoup d'Africains étaient chrétiens sauvés par la grâce de Christ bien avant la colonisation. Bien avant la colonisation. Nous parlons ici de quelque chose de près de 2000 ans. Cette histoire que nous sommes en train d'étudier avec cet eunuque éthiopien, c'est quelque chose de près de 2000 ans. Et la colonisation est venue en Afrique depuis quand? Les colonisateurs sont venus quand en Afrique? Non. Voyez, mes amis, c'est Dieu lui-même qui a introduit la Bible en Afrique parce qu'il a un peuple élu en Afrique qu'il veut sauver par la proclamation de son Fils Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Me voici. Je suis Camerounais, lui il est Éthiopien, moi je suis Camerounais, et beaucoup d'autres Camerounais, beaucoup d'autres Éthiopiens, beaucoup d'autres Congolais, Nigériens sont rachetés par le sang de Christ parce que Dieu les avait élus depuis avant la fondation du monde. Et c'est Dieu qui a introduit sa parole dans ce continent africain pour sauver ceux qu'il avait prédestinés au salut depuis avant la fondation du monde. Selon que ses élus sont éparpillés à travers le monde entier. Vous voyez ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 5. Où il est écrit, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Ici, c'est, on nous décrit la scène qui se passe autour du trône de l'agneau. Et il est écrit, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne. Voilà comment il glorifiait et louait le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Voyez, lorsque Christ est mort il y a 2023 ans, il a racheté pour Dieu de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation et de toute nation des hommes, des femmes que Dieu lui avait donné depuis avant la fondation du monde. Et donc, ce n'est pas la colonisation qui a apporté la Bible en Afrique, mais Dieu lui-même, afin de sauver ses élus africains par la proclamation de son Fils crucifié, comme Philippe était en train de l'annoncer ici à l'eunuque éthiopien à partir du passage du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53. Voyez, mes amis, ne suivez pas ce que les hommes veulent vous faire croire. C'est simplement leur haine pour Christ qu'ils étalent en disant la Bible, c'est un instrument de la colonisation pour nous aveugler et pour s'accaparer de nos richesses. C'est le rejet de Christ. C'est l'opposition à Christ. Que Dieu vous donne la grâce de ne pas les suivre. Une autre chose que nous voyons de cet Éthiopien, il lisait les Écritures, mais il ne les comprenait pas. Nous lisons cela à partir du verset 29, où il est écrit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?»« Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Donc, qu'est-ce que nous voyons ici ? Cet homme, nous l'avons vu, il était un homme instruit, hautement instruit. Parce que pour être ministre d'une reine ou bien d'un roi, cela possède d'une grande instruction, d'une grande connaissance. Et même et aussi pour être surintendant des trésors, cela demande, exige une grande connaissance de la gérance des biens. Donc cet homme était hautement instruit, mais il ne comprenait pas les Écritures. Mais la première des choses que nous voyons dans ces passages, avant de passer au fait que cet homme ne comprenait pas les Écritures, nous relevons d'abord une chose très importante dans le verset 29. Nous voyons premièrement à travers ce passage, le verset 29, que le prédicateur de l'Évangile dépend totalement et entièrement du Saint-Esprit. Voyez, mes amis, ce n'est pas les diplômes, les grands diplômes, les grands doctorats, les grandes licences, les grandes maîtrises en théologie, mais le véritable prédicateur dépend du Saint-Esprit. Totalement, entièrement, le Saint-Esprit qui le dirige, le Saint-Esprit qui lui révèle le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire et dans toute sa grâce à travers les Écritures, le Saint-Esprit qui le fortifie et qui le console dans l'œuvre. Voyez, dans le verset 29, il est écrit, « L'Esprit dit à Philippe, Avance et approche-toi de ce char. Oui, mes amis, c'est le Saint-Esprit qui ordonne. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Et tous les véritables prédicateurs sont totalement et entièrement sous la sainte et sage direction du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Voyez, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 13. Lisons le texte, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 13. Il dit, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. De la même manière que seul l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, seul l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et il n'y a pas de prédicateur de l'évangile qui ne soit pas, qui n'ait pas reçu l'esprit de Dieu, qui ne soit pas dirigé par l'esprit de Dieu, qui ne soit pas fortifié par l'esprit de Dieu, instruit par l'Esprit de Dieu est consolé par l'Esprit de Dieu dans le ministère. Ce n'est pas une affaire de diplôme, mais c'est une affaire du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Voilà, revenons maintenant ici dans notre texte. Et une autre chose que le Saint-Esprit souligne dans les versets 30 à 31, vous voyez, c'est la nécessité des prédicateurs de l'Évangile. Lorsque Philippe s'approcha du char, il entendit l'eunuque éthiopien qui lisait Isaïe et il lui a demandé, « Mais comprends-tu véritablement ce que tu lis ?» Et l'éthiopien lui a dit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et nous l'avons déjà dit, je le répète, cet Éthiopien était un homme très instruit, mais il ne pouvait comprendre les Écritures par son intelligence et avec son intelligence, avec ses connaissances humaines. Avec ses connaissances humaines, nous venons de le dire, ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous révèle les choses de Dieu et non par l'Esprit de l'homme. D'où la nécessité des prédicateurs envoyés par Dieu, la nécessité des prédicateurs oints par l'Esprit de Dieu pour nous annoncer les choses de Dieu, les choses spirituelles, les choses qui concernent notre salut et dont l'Esprit de l'homme ne peut comprendre. Et c'est pourquoi si nous lisons encore dans 1 Corinthiens, hein, voilà ce que le verset 14 dit. Il dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il fallait donc que Philippe vienne annoncer Philippe, qui était loin du Saint-Esprit, qui avait la connaissance de Christ, la révélation de Christ tel qu'il est, fidèlement tel qu'il est dans les Écritures, vienne pour annoncer ce Christ à cet Éthiopien afin qu'il s'attache à ce Christ pour le salut de son âme. la nécessité des prédicateurs envoyés par Dieu. Si il n'y a pas de prédicateurs envoyés par Dieu, il n'y a aucun espoir de salut. Heureusement, et grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il a un peuple qu'il veut sauver, dans sa grâce, en Jésus-Christ, il a envoyé des hommes loin par son esprit pour nous annoncer fidèlement son Fils Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour le salut des pécheurs par son obéissance et par son sacrifice qu'il a offert sur la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 10. Nous parlons de cette nécessité des prédicateurs de l'Évangile, des hommes que Dieu lui-même a envoyés pour le salut de son peuple. À partir du verset 14, Romains 10, il est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et véritablement pour cet Éthiopien, les pieds de Philippe que le Saint-Esprit a conduit vers lui étaient des beaux pieds, parce que ses pieds sont venus pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour lui annoncer la paix en Jésus-Christ, la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Mais ces questions sont capitales aujourd'hui dans ce Cameroun et dans le monde entier. Comment les hommes pécheurs invoqueront-ils la grâce de Dieu? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voyez, mes amis, tant que les prédicateurs continuent de prêcher les délivrances, de prêcher la prospérité matérielle et les miracles et les billets d'avion pour aller aux États-Unis, en Chine, les mariages par-ci et par-là, les hommes ne croiront jamais en Jésus-Christ. Les hommes n'invoqueront jamais le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Parce qu'il faut qu'ils entendent parler de Christ, comme je le fais ici, chaque fois que Dieu me donne sa grâce. Je ne vous parle pas d'autre chose que du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de son œuvre de grâce accomplie sur la croix pour le salut des pécheurs. Et la réponse est là. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Voici le point capital. Il faut que les prédicateurs soient instruits par Dieu lui-même, équipés par Dieu lui-même et envoyés par Dieu lui-même. Et c'est ce que nous voyons. N'est-ce pas dans cet homme, dans le salut de cet homme, cet eunuque éthiopien, Dieu lui a envoyé Philippe. Philippe qui était un homme loin du Saint-Esprit et qui faisait des grands miracles et qui annonçait fidèlement et efficacement le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le verset 16 conclut ceci. Verset 16-17, il dit mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et nous, les prédicateurs de la grâce, nous pouvons le dire actuellement comme je suis ici, je peux dire, Seigneur, qui croit à ma prédication? Mais en réalité, ceux que Dieu a destiné au salut depuis avant la fondation du monde, comme les ducs éthiopiens croiront. C'est là ma consolation. C'est là la consolation de tout véritable chrétien, de tout véritable prédicateur de l'Évangile. Et le verset 17 conclut, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Oui, la foi qui sauve vient de la proclamation de Christ crucifié, pas des miracles, pas des délivrances, pas de la prospérité matérielle, pas des œuvres, des efforts de l'homme, hein, la décision de l'homme, le libre arbitre de l'homme. La foi qui sauve est un don de la grâce de Dieu qui est donné par le Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, enseveli, ressuscité le troisième jour et assis à la droite de Dieu son Père. Chers amis, voici ce qu'était cet eunuque éthiopien. Et beaucoup d'entre nous pouvons nous voir dans cet homme. Voyez, perdu dans notre péché, et par notre religion, mais sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, selon sa grâce. Manifeste selon sa grâce qu'il nous a donnée depuis les temps éternels. Puisse le Seigneur parler à quelqu'un, comme Philippe était en train de parler ici à l'eunuque éthiopien, et l'amener à la repentance et la foi en Jésus-Christ. Voici le message de ce soir. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.